Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, et c'est Jeudi Noir qui commence. Alors Jeudi Noir, encore notre troisième session de Marathon du Livre. On va vous présenter une grosse dizaine, parce que ça va bien déborder de livres, donc juste des petits teasers, surtout de littérature, mais vous verrez tout ça. Alors on a commencé avec un morceau de Piltdown Frauds, je ne sais pas ce que c'est que ce groupe, c'est des Australiens, avec un morceau qui s'appelle Balls of Fur, donc boules de fourrure, puisque Michel va vous parler d'un livre qui a un rapport avec les boules de fourrure.
Alors, c'est un rapport avec les boules de fourrure, pas les boules de fureur, parce que ça s'appelle Invasion. Et donc, on pourrait avoir, faire un léger contresens, s'imaginer qu'on est dans une espèce de lieu commun à la Renaud Camus. Mais on va éviter tout ça, parce que c'est un roman de Luc Reinhardt. Alors, pour ceux qui savent, ou qui ne savent pas d'ailleurs, Luc Reinhardt, c'est un écrivain américain qui avait publié dans les années 70 un bouquin qui s'appelle L'homme des. Où il s'amuse à imaginer ce que deviendrait la vie d'un psychiatre américain moyen qui joue sa vie au dé en prenant des décisions sur les dés, justement. Et là, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Alors là, on voit qu'il a... C'est un vieux monsieur, Luc Reinhardt, mais il a pas... Il a rien lâché. Et dans son roman Invasion, qui a été publié aux Forges de Vulcain cette année, c'est le dernier à être sorti, il décrit comment finalement la Terre a été visitée par des êtres extradimensionnels qui s'appellent, qui sont les, oh zut, c'est quoi, c'est les poissons poilus, les pépés, parce qu'en fait un pêcheur américain en trouve un par hasard dans l'eau, et que cet être extradimensionnel ressemble à un ballon de plage avec des poils. Et au début, il sait pas, il ne voit pas trop bien quel est cet être, et finalement, il comprend, enfin, l'être commence à communiquer. Et il s'aperçoit de quoi? Que ces pépés, les poissons poilus, donc, ne viennent ici sur Terre que pour s'amuser, et qu'ils nous trouvent beaucoup trop sérieux. Les pépés adorent les enfants, détestent les adultes qui se prennent trop au sérieux. Et, ben, comme dans pas mal de bouquins de Reinhardt, ça va virer à une satire assez, assez vitriolesque de l'Amérique actuelle, et des mecs de Trump en particulier, qui est un peu étrié dans sa bêtise, et on voit que Luc Reinhardt finalement rêve d'une espèce de grande révolution populaire qui mettrait à bas tout un tas de choses désagréables qu'on peut observer un peu partout dans le monde aujourd'hui, et aussi beaucoup aux États-Unis. Alors ça, c'est l'histoire. Le roman, à mon avis, est peut-être un petit peu long, il fait une cinquantaine de pages, et à un moment, bon, Ça s'essouffle un petit peu. On voit que le principe, ça part de March and Go Home de Frederick Brown, où il y a la même idée, c'est-à-dire l'idée des extraterrestres arrivent sur Terre et foutent un bazar pas possible avec l'humour, et uniquement l'humour, sans rien faire. Et Toto, c'est ça, José qui m'appelle le et Toto dans March and Go Home. Mais bon, ça reste amusant. Si jamais vous aimez bien, alors moi je vous conseillerais d'abord d'aller lire L'Homme D. Et puis si jamais vous avez l'occasion, vous pouvez aussi lire Invasion de Luc Reinhardt aux éditions des Forges de Vulcain.
Radio Libertaire 89.4, toujours la radio de la Fédération Anarchiste, c'est Jeudi Noir avec le Marathon du Livre, volume 3. Donc on vient d'écouter Guernica, un groupe qui avait sorti une split cassette avec les Bérus, dont on se souvient tous et toutes. Et le morceau s'appelle La Viande Hurle. Pourquoi La Viande Hurle? Parce que je vais vous parler d'un bouquin de Roland C. Wagner, dont je vous avais déjà parlé fin 2018. pour un autre livre. Et là, c'est un petit bouquin assez court qui s'appelle « Cette crédille qui nous ronge ». Qu'est-ce que c'est une crédille ? Je ne sais pas trop. Alors, c'est un bouquin déjà qui est intéressant. C'est de l'ASF. Hein, c'est un bouquin qui est intéressant au niveau du langage puisqu'il invente plein de mots. Puisqu'on a des gens qui sont allés coloniser, des terriens qui sont allés coloniser une autre planète. Et sur cette autre planète, il y a par exemple une des villes qui s'appelle Montmartre, qui a 500 000 habitants. Et donc on utilise une sorte de néo-français avec plein de nouveaux mots qui sont utilisés. Donc c'est assez sympa à lire. Et puis plein d'autres peuples du monde qui ont colonisé cette planète. Et il y a un souci, c'est que sur cette planète, il y a des gens qui sont pour manger de la viande et d'autres qui sont contre. Voilà. Et là, on se retrouve au début du livre avec un garde du corps d'un ambassadeur qui arrive sur cette planète après des années de voyage en cryogénie, tout ça. Et en fait, son boss, l'ambassadeur, est mort pendant le trajet. Un bug informatique ou je ne sais pas quoi. Et donc, lui, il se retrouve chargé d'essayer de résoudre cet épineux problème de doit-on être des viandards ou des végétards. Voilà. Donc, ce garde du corps doit à tout prix éviter une guerre civile puisqu'il y a des gens qui veulent continuer à chasser les espèces sur cette planète. Une planète où il n'y a pas de prédateurs. Et il se retrouve au milieu d'un complot. Je vous passe les détails parce que je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est assez rigolo comme monde. On a par exemple, c'est divisé en plusieurs nations. On a les Turcs qui sont végétariens, les Basques qui mangent surtout du poisson, et les Bavarois qui sont de gros chasseurs, charcuterie et tout ça. Alors c'est toujours assez drôle avec Roland C. Wagner. Donc je ne vous dis pas comment ça finit, mais en tout cas il arrive à trouver une petite solution. Déjà, il réussit à survivre le personnage et à essayer de trouver une solution sur comment départager les gens qui veulent continuer à manger de la viande et ceux qui veulent arrêter. C'est vraiment une petite fin assez inattendue et je me demandais comment il allait réussir à finir ça. Il a réussi à finir. Donc un petit bouquin sympa qui date de 1991, qui a été réédité dans les années 2000 et qu'on peut trouver. « Cette crédille qui nous ronge » de Roland C. Wagner.
Olympe 31.
Froid sont les mains, les os et les cœurs. Froid sont les voyageurs loin de leur demeure.
Olympe 31.
S'ils ne voient pas qu'un mensonge sont cachés quand le soleil et la lune sont couchés.
Olympe 31.
Tel étant, oui, dans les nefs des hautes traversées, tu as vogué sur la mer avec la troupe de tes compagnons si forts prisés de toi.
Olympe 31. En défiant Pluton dans la galaxie de Jupiter, combien de temps vit-on, combattant les contingents de Triton sur six univers, dans des déflagrations de lames de fond, lignes de Gulliver, fuyant les vents des viandes Poséidon sous le signe du mystère, à bord d'embarcations dont les cordes s'usent, battant pavillon de la Méduse, bravant les tourbillons dans un lointain son de cornemuse, au large de Syracuse, où les sirènes sous forme de muses deviennent soudainement murènes par d'énormes ruses, dans des déserts d'éclairs, on erre comme les argonautes, un enfer sans air dans ce terre de spationautes, qu'on se vénère ou qu'on obtempère, on vient de guerre, mais c'est pas nos fautes, trajet interstellaire à travers des systèmes. Précaire semblable aux nôtres, on ne se fie pas aux autres. Jusqu'à la nuit où on touchera nos côtes, on sait qu'on sera aspiré par les lumières si les carreaux sautent. Passant le 30e hurlant et le 40e rugissant, dans le vacarme assourdissant des titans futuristes. Nous partîmes à 600 en arrivant, nous n'étions plus 6. Par les abîmes de l'abysse et les tridents des océans de supplice. Ces vivants, dissidents, immigrants, communistes, dérivant jusqu'au bord du Styx. Du son irritant et la qualité sonore du mix.
Froid sont les mains, les os et les cœurs. Froid sont les voyageurs loin de leur demeure.
Olympe 31.
Tu ne vois pas qu'à nos songes sont cachés.
Olympe 31.
Froid sont les mains, les os et les cœurs. Froid sont les voyageurs loin de leur demeure.
Olympe 31.
Qui ne voit pas qu'à nos songes sont cachés quand le soleil et la lune sont couchés.
Olympe 31.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4. Je ne savais pas que le micro était ouvert. Voilà, donc pour une fois, j'ai pas dit de conneries. Ouh. Et donc, Jeudi Noir, Radio Libertaire, et on vous présente ce soir un troisième ou un quatrième marathon du livre.
Troisième.
Et moi, je voulais vous parler d'un auteur qui, bon, politiquement, est absolument dégoûtant. C'est Dan Simon, c'est un Américain. Bon, c'est un type de droite, hein, faut être clair. Mais il a écrit des romans de science-fiction qui, à mon avis, valent le détour. C'est un bon écrivain. Un salaud, mais un bon écrivain. Et là, je voulais vous parler. Alors, il en a écrit pas mal. Hein. Il a écrit tout un cycle, le cycle d'Hyperion, qui est assez grandiose. Il a écrit aussi L'échiquier du mal. À la base, c'est un type qui écrit un peu sur l'horreur. Et moi, ce dont je voudrais vous dire deux, trois mots, c'est deux forts romans, un qui s'appelle Ilium, un autre qui s'appelle Olympos. Et où il va décrire finalement le. Comment Ça part au début, ça part de la guerre de Troie. Et un type, c'est un scoliaste, c'est-à-dire c'est une espèce de chroniqueur de la guerre, qui se trouve être un Américain du XXe siècle,
qui est chargé par les dieux grecs de rendre compte de la guerre de Troie. Donc, bon, on se demande qu'est-ce qui se passe. Juste après, c'est un récit un petit peu parallèle, on tombe sur les Terriens qui vivent une vie assez étrange, où ils vont de fête en fête. Ils vivent 100 ans, en pleine santé, puis ensuite ils disparaissent. Bon, tout va bien, on se demande ce qui se passe. Puis après, troisième plan, on tombe sur des intelligences artificielles qui se disent qu'il y a un gros problème du côté de Mars et que ce qui est en train de se passer sur Mars pourrait quand même peut-être faire péter le système solaire. Et donc là, on ne comprend plus rien. Si vous comprenez quelque chose, c'est que vous avez déjà lu le roman ou alors que vous êtes 10 fois plus intelligent que moi, ou 2 fois, ou 1 fois même, parfois ça peut suffire. Et donc, ça dépend de ma bêtise ou de votre intelligence, ça c'est que je ne peux pas l'évaluer. Mais si vous continuez à lire le roman, vous allez finir par comprendre un petit peu ce qui se passe, et c'est une grande fresque comme ça, qui reprend beaucoup de choses de l'épopée grecque. Parce que Dan Simon, c'est un professeur de littérature, et ça se sent, mais plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il offre une représentation des héros de l'Antiquité grecque qui est assez croquignolesque, je dirais, puisqu'il est dépeint comme des espèces de brutes épaisses, avinées, qui sont complètement stupides et qui ne pensent finalement qu'à s'entretuer. Donc... Je crois que c'est historiquement assez exact. Et pour peu qu'on puisse parler d'histoire dans le cas de d'Homère. Mais voilà, donc c'était Ilium, donc Dan Simons. Voilà, moi c'est. Alors bon, faut aimer les gros bouquins. Là, moi, je vais vous présenter que des gros bouquins. Ils font tous 600 pages ou 700 pages. Mais c'est un peu le principe de la série télé, mais en roman. Moi, j'aime bien.
بهزاف وجات الباري باغي باغي جات الباري تبغي تحوس تبغي تسكر تبغي تسلم تبغي تعنق تبغي حبيبها يا تبغي تحشق يا جات الباري باغي باغي يا جات الباري يا جات تحوس يا في بلا باغي يا ولي مريولا يا ولي فريولا يا وتبغي اللوط هي يا 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 كلامي ايه تبغي الطاكسي تبغي تحوس تبغي تحشق والمريولة هي هي وتبغي تسلم تبغي تعنق مع حبيبها هي والمريولة هي يا وجات تحوس يا وجات تشرشي يا وجات تحوس يا 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 بهز عاب وجات تحوس يا وجات تسقسي يا وجات تشرشي تبغي حبيبها يا وتسكري وتسربي
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours... c'est quoi ? Jeudi Noir, pardon. C'est Jeudi Noir, donc le marathon du livre, épisode 3, la menace pas fantôme. Et là, on vient d'écouter Sheikha Rimiti, ou Sheikha Rimiti, je ne sais pas le prononcer, je suis désolé. C'est donc un morceau qui s'appelait La Touriste. la touriste, parce que je vais vous présenter un bouquin, et même un éditeur, un feu éditeur. Mais le bouquin s'appelle « Je ne suis pas un touriste ». C'est aux éditions Terre Noire. Alors déjà, je vais présenter l'éditeur, puisque l'éditeur n'existe plus. Hein, apparemment, depuis 2012, il n'y a plus de nouvelles sur le site, mais c'est un collectif de précaires qui a sorti un paquet de bouquins assez sympas. Donc par exemple, « La crise, c'est glamour et on peut devenir riche », « La fin du collectif », Être pauvre, qui était un recueil de simplement de paroles de gens précaires, comme ça, juste juxtaposé, ça fait beaucoup. Mais là, je vais vous parler surtout de Je ne suis pas un touriste, qui est un petit format, mais très épais, qui est un montage d'images tirées de la presse, simplement, des magazines télé, des journaux, des magazines, et puis de textes. Tiré à la fois de journaux parfois critiques et d'autres pas du tout. Hein. Ça peut être des brochures publicitaires du Club Med ou des choses comme ça. Il juxtapose plusieurs types de tourisme, ce qu'on appelle maintenant l'écotourisme par exemple. On prend l'avion mais c'est pour faire du bien à la planète. Ou le tourisme humanitaire, où on va sauver les petits noirs et les petits asiatiques, etc. Parce que franchement ils le valent bien. Et puis on se prend en photo devant et puis on envoie ça sur Tinder pour pécho. Voilà, donc il y a plein d'images, c'est assez bien foutu, en collectif. On a des petits bouts d'interview, voilà, d'une Miss France élue pour son côté un peu exotique, d'autres gens qui vont militer pour le dark tourisme, pour aller voir par exemple les caches secrètes d'Al-Qaïda, en justifiant leur tourisme par un côté politique et engagé, des déclarations de Walt Disney, enfin de Disneyland World, des choses comme ça. Et donc c'est plein de petites images, tourisme sexuel également quand même. Hein. Donc il ne rate absolument aucun aspect du tourisme ravageur. Tout ça juste en posant des images et des textes. Donc c'est un petit bouquin assez bien fait. Et puis les autres aussi d'ailleurs, j'espère qu'ils sont encore disponibles. Donc le site c'est sur éditionterrenoire.com. Le site existe encore, je ne sais pas si on peut commander, vous pouvez toujours tester. Moi je les avais trouvés à un salon du livre libertaire, donc peut-être qu'il y a encore des stocks à droite à gauche. Vous aurez les liens sur le site de Jeudi Noir. Gurdulu.org, Jeudi Noir. Bon allez, on va passer un peu de Ludwig.
Tous les petits matins, réveillent la Canterbro. Monsieur Bipap serein, sifflote avant l'assaut. Il aime ses doux refrains qui tiennent son cœur au chaud.
Vive la patrie,
vive la nation
et vive la Canterbro. Ah ah, ah ah. Bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap, roi du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah. Bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap s'engage dans la Waffen-SS. Du matin jusqu'au soir, la poudre et le tonnerre, Monsieur Pipap bagarre, fait feu entre deux pierres, il s'annonce sa victoire quand l'ennemi est à terre.
Vive la madré,
vive la nation,
et les maîtres cantaires.
Un cri s'envole sous la plaine.
Chargé!
Monsieur Pipap avant, recrache son Heineken. Et est chargé de sang, ses yeux remplis de haine.
Vive la patrie!
Vive la nation! Et vive Lili Marlène! Ah ah! Bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap, roi du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah! Ah ah! Bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap s'engage dans l'Afrique, la Corse. Les éléphants au sens, au loin dans son viseur, Monsieur Pipap s'élance. Ploum, 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 il titube et il avance, insensible à la peur. Vive la patrie,
vive la nation,
Et vive la bonne bière, qui est bon.
Et bon, la gueule.
Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap, roi du comptoir, c'est que le roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap s'engage dans la Légion Condor. Les missiles déboulent et sur ses entrefaites, Monsieur Pipap s'écroule, un pruneau dans la tête. La lampe pendant qu'il roule vers son ultime bière. Vive la patrie,
vive la nation
et vive les vers de terre. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap, roi du comptoir, c'est cru roi du tir au pigeon. Ah ah, ah ah, bravant la peur et la mort, Monsieur Pipap s'endort, une médaille sur le corps.
Junior qui se poursuit pour son marathon littéraire. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est moi qui vais vous présenter un énième livre, donc cette fois-ci de Jean-Philippe Jaworski, Gagner la guerre. Donc c'est un livre poilu, comme le premier, mais cette fois-ci c'est pas des boules de plage poilues. C'est plutôt des hommes poilus qui se retrouvent finalement avec les jeux politiques de qu'est-ce qui se passe quand on a gagné la guerre et que finalement il faut se partager le butin en quelque sorte. Et ici le butin, c'est la ville qui est au centre d'un empire. Alors historiquement ça se situe, c'est un peu bizarre, parce que on a l'impression que l'auteur s'inspire à la fois des républiques italiennes de la Renaissance et de l'Empire romain. Avec un petit peu évidemment les Tolkienades habituelles, puisqu'il y a quelques magiciens qui se baladent, même s'ils sont peu proéminents dans l'affaire, et le personnage principal étant un spadassin assez bas de plafond dont le métier est essentiellement d'espionner et d'assassiner, mais qui va se retrouver au cœur d'intrigues qui le dépassent totalement, auxquelles il ne comprend pas grand chose, mais qui fiche le peu de vie qu'il a en l'air. Donc c'est assez héroïque, c'est assez épique, c'est un petit peu capé d'épée. On pourrait penser à Jean Marais, mais c'est moins marrant. Enfin, ça dépend, parce qu'en 40, c'était moins marrant, Jean Marais. Et donc, c'était vraiment un peu boueux. Mais, oh là là, j'ai bu trop de bière avant l'émission. Et donc, c'était Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Vous pouvez trouver ça en folio SF. C'est pas vraiment de la SF. Là aussi, ça fait 1000 pages. C'est des gros trucs. Mais moi, je trouve que ça se lit bien et c'est un petit souffle épique rigolo. Voilà.
Et sinon, s'il y a des lecteurs et des lectrices qui ont la flemme de lire, est-ce que tu peux aller chez eux à domicile leur lire le livre ?
Ah non, c'est trop long et puis je lis très mal.
Petit con, éteins la télé!
C'est vrai, merde, c'est pas de la musique, ça.
Écoute, môme, ça c'est bon. C'est quoi ça, un idiot, là? Gâcher de la bande ou quoi?
Non, je gâche pas de la bande. Ton gosse, il a chié.
Il a marché dedans!
Il est beau, l'enregistrement! Bon, allez, on repart.
Sur Radio Libertaire. Donc là, on vient d'écouter Chromosome 4 avec Le pied gauche dans la merde. Pour introduire, alors moi aussi, je lis des gros bouquins, des bouquins des fois qui font 12 pages. Alors là, donc, c'est un fanzine, même deux fanzines, puisque c'est le fanzine qui s'appelle Opiole. Donc Opiole numéro 1 et Opiole numéro 2 qui viennent de sortir. Alors Opiole, c'est un petit fanzine, un grand fanzine fantastique. Donc tout en belle photocopie noir et blanc, avec du vrai noir et du vrai blanc, et des fois, il y a même du gris. Avec un personnage principal qui s'appelle Skichi. Monsieur Skichi, il a un majordome qui s'appelle Jenkins, et Jenkins, il en chie un petit peu. Voilà. Donc, si vous aimez les blagues de caca, de Prout aussi, et puis plein d'autres choses, c'est assez magnifique. Vous pouvez commander les deux numéros en allant sur le site de Jeudi Noir. On transmettra aux auteurs, puisque on essaye de les identifier, on ne sait pas forcément qui c'est. Et sur le dernier numéro, il y a même une chronique scientifique, une rubrique scientifique à nos chers amis disparus, donc qui vont faire découvrir des animaux dont préhistoriques déjà disparus et avant même qu'on ait pu les découvrir. Donc voilà, c'est bien, ça nous rappelle un petit peu pour ceux qui ont connu Roger Mag. C'est un peu le même esprit. Allez, à bientôt.
Vous écoutez Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jésus Noir qui se poursuit pour son marathon littéraire et spécial dédicace aux quelques Lyonnais qui nous écoutent par hasard. Voilà, et qui n'ont absolument rien à voir avec Opiol. Donc là, moi je voulais vous présenter un petit livre de Ian MacDonald, Le fleuve des dieux. Alors, Ian MacDonald est écossais, c'est une information importante parce que j'en ai pas beaucoup d'autres sur son compte. La rareté fait l'importance. Alors, Le fleuve des dieux, ça parle, comme de la SF, ça se situe en 2047, donc c'est dans pas super longtemps malgré tout. Ça parle des intelligences artificielles et de la façon dont elles sont en quelque sorte empêchées dans la société future. Empêcher d'exister, alors qu'elles ont, en gros, on a atteint le stade de la singularité, c'est-à-dire le stade où il y a des machines qui ont pris conscience de leur existence. Ce sont ces intelligences artificielles, et c'est toute une histoire sur justement comment est-ce qu'elles vont finalement passer, arrivait à ne pas être exterminé par les êtres humains. Donc c'est une histoire de la survie de Skynet, pour ceux qui ont vu Terminator. Mais où là, Skynet n'est pas forcément l'être le plus menaçant. C'est peut-être plutôt l'humanité qui est menaçante. Et donc c'est à partir de 9 points de vue, donc c'est un roman un peu choral. Bon, là encore, ça fait que 830 pages. Donc je pense que si vous avez une heure ou deux à tuer, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis, c'est le fleuve des dieux. Donc ça allait bien avec Alice Donut, le deuxième meilleur groupe des années 90 ou le troisième après No Means No. Voilà. Donc à la prochaine.
Mes disques s'enregistrent, autant de testaments, pas de médicaments, mais l'air un peu sinistre. Une peur permanente qui me dévore les nerfs, rongée par les vers, camouflée sous des plantes. Et quand d'autres raccrochent, je garde le tempo pour la paix d'un repos, je passerai l'arme à gauche. Trouver de l'intérêt dans un art sans douleur, c'est comme un Rubik's Cube qui n'a plus de couleur. La lueur d'une étoile, la pâleur d'une lune, un geste de rancune quand les chimères s'étalent. Recevoir la détresse dans ses plus beaux atours, assiégée par les rats dans ses murs qui m'entourent. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. J'ai vaincu mes lacunes, élargi mes visions, juste un peu de poison sur le bout de ma plume. L'amertume à ce goût pénible et familier, l'impression que j'étouffe comme un scaphandrier. Dans l'austérité, Lovecraft en épigraphe, le marbre et l'épitaphe pour la postérité. J'ai le temps du fantôme, je meurs depuis des lustres. Mes soupirs s'endorment du sommeil du juste. Griffonner ses chutes, fortune et vétusté. Un peu de quiétude quand j'ai trop dégusté. Ces murmures de rumeurs à se coltiner, ces rats dans les murs que j'entends trottiner. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. Porter sa peau d'âne si loin des apparences, c'est dans l'indifférence que l'affront m'accompagne. L'impression troublante que les murs se déplacent quand les tragédies remontent à la surface. Égaré dans le temps, dégradé dans la tombe, patiemment j'attendrai que la douleur s'estompe. La couleur la plus sombre, les remèdes imbuvables, porter le poids des mots comme un mal incurable. Un cartade en terrain, lunaire et sans lumière, les remords d'hier dans le fond d'un cartable. L'illusion des prières, l'espoir s'évacue, redevenir poussière avant d'avoir vécu. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. Hématome au sternum, un parfum de scandale, le temps d'un automne, le syndrome de Stendhal. Les pinous, les pétales, la vie du bon côté, lentement s'égarer, en perdre les pédales. Mon squelette me sourit, les rats dans les murs de mes futurs taudis. Mon squelette me sourit, les rats dans les murs de mes futurs taudis. Mon squelette me sourit, les rats dans les murs de mes futurs taudis. Mon squelette me sourit, les rats dans les murs de mes futurs taudis.
Eh ben, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé du 7 en chiffres romains, le rappeur basque, avec le morceau qui s'appelait comment déjà, Des rats dans les murs. Des rats dans les murs, parce que là, on est sur Jeudi Noir, Radio Libertaire 89.4, et je vais vous parler d'un bouquin de Terry Pratchett. Terry Pratchett, l'auteur des Annales du Disque Monde, donc il y a je ne sais pas combien de dizaines de bouquins qui présentent tout un monde complètement délirant, avec des mages incompétents, des gardes complètement crétins. C'est toujours, c'est souvent assez drôle, pas toujours. Et là, c'est un bouquin qui ne fait pas partie des Annales du Disque Monde. C'est le premier qu'il a fait, qu'il a écrit apparemment pour les enfants. Alors, je me demande vraiment quels enfants vont écouter ça, vont regarder ça, pardon. Je dis ça parce que je l'ai écouté en livre audio, donc écoutez. C'est assez dark comme roman. Ça s'appelle Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants. Le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, donc c'est sur la base du joueur de flûte de Hamelin. Donc vous savez, le personnage qui arrive dans une ville et qui promet d'envoyer les rats dans le fleuve, et puis comme personne ne le paye, il envoie les enfants. Là, on se retrouve avec des rats et un chat qui bouffe dans une poubelle près de l'université invisible d'Ankh-Morpork, donc c'est l'endroit où il y a tous les magiciens complètement incompétents. Et comme il bouffe de la nourriture qui a été mal enchantée par ses mages, il se retrouve doué de la parole et de l'intelligence et de la pensée. Et donc les chats et les rats montent une arnaque auprès des humains. Le chat envoie les rats envahir des villages, et ensuite il se fait payer pour les débarrasser. Il fait comme s'il jouait de la flûte, etc. Alors, jusque-là, c'est assez rigolo, mais il y a des passages assez sombres où les rats sont confrontés à leur animalité, à leur humanité. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment envie de penser? Ils se retrouvent face à la mort aussi. Donc, pour un livre pour enfants, Terry Pratchett a fait assez fort. Donc, c'est vraiment un des bouquins qui m'a vraiment marqué de Terry Pratchett par rapport à d'autres où bon, on s'y attend, c'est vraiment du fun à la Monty Python, on peut dire. Voilà, le fabuleux Maurice et ses rats. Ses rongeurs savants, pardon. Bon, maintenant on va écouter un peu de musique. De musique.
Je suis le début et la fin, je t'ai vu naître et mourir. Je suis le capitaine Haddock et Tintin, je suis les larmes et le rire. Je suis Dieu, et c'est la chanson de Dieu. Je suis Dieu, et c'est la chanson de Dieu. Je déconne pas, je suis Dieu. Je suis Dieu, et c'est la chanson de Dieu. J'ai eu envie de faire du rock comme ça. J'ai encore quelques problèmes de rythme, mais bon. Me demandez pas des choses sur les questions religieuses. Le schisme de je sais pas quoi. Moi j'y connais rien. J'ai jamais rien compris à tout ça. Mais je suis Dieu. Mais bon.
Alors même, vous êtes sur Radio Libertaire, donc c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Donc avec un morceau qui s'intitulait « Je suis Dieu », alors évidemment, immédiatement, on avait envie d'enchaîner avec un autre morceau de Johnny Hallyday qui s'appelle « Allumer le feu », mais par les temps qui courent, ça pourrait être très très mal pris et mal interprété, parce que bon, nous, on n'est pas comme ça. Et voilà, et puis les poutres, ça brûle mal, c'est connu. Ensuite, moi, je vais vous présenter justement un bouquin qui parle de Dieu. Eh oui, ça arrive. Mais le bouquin part d'un principe assez... Enfin, le bouquin, il y en a deux, ils font 1000 pages chacun. Mais c'est parce que je suis relou. Et donc, ou peut-être qu'il y en a un qui fait 900 pages et l'autre 1100, je sais plus. Donc, peu importe. Et en fait, ça part du postulat que Dieu est mort et que les anges ne savent plus quoi faire et ils s'entretuent. Ça, ce serait le pitch résumé en une phrase un petit peu abrupte. En réalité, pour arriver à comprendre ça, il faut lire au moins 600 pages. Je pense, non, un petit peu moins en réalité, mais assez étonnamment, donc non, l'histoire est racontée d'une façon assez particulière, donc ça peut être difficile de rentrer dans le bouquin. Malgré tout, moi qui est en horreur tout ce qui, en gros, artistiquement dépassait les grottes de Lascaux, parce que la décadence à partir de là, j'ai quand même réussi à rentrer dedans. Et donc, je pense que c'est, alors, soit j'ai accompli un exploit, soit le livre est réellement lisible. Je pencherai pour la deuxième option parce que moi les exploits j'aime pas ça
Et donc, voilà, c'est, je ne vous ai même pas dit le titre. Et c'est un super livre, ça s'appelle C'est Encre et Vellum de Hal Duncan. Et vous demandiez de quoi je parlais, n'est-ce pas, hein? Ben voilà, c'était Hal Duncan, Vellum et Encre. Et c'est un trop bien bouquin qui fait 2000 pages mais, et qui parle de Dieu. Et Dieu, il est mort et ça brûle partout. Voilà, à plus tard.
Radio Libertaire 89.4, c'est toujours Jeudi Noir, le marathon du livre, volume 3. Puisque Michel a envie de vous parler de bouquins qui font 4000 pages, moi j'ai parlé de Hard SF, la hard science-fiction, c'est-à-dire la science-fiction hyper réaliste, où on vous explique pourquoi tel boulon ne peut pas être vissé sur Mars, mais par contre sur la Lune ça marche. Alors, dit comme ça, c'est pas fun, mais bon, c'est un bouquin d'Andy Weir. C'est le gars qui a écrit Seul sur Mars, avec ce super film un peu moisi, où un mec plante des choux-fleurs sur Mars, parce qu'il se retrouve tout seul. Là, c'est un bouquin un peu plus court, qui fait pas 1000 pages, mais plusieurs centaines. Ça s'appelle Artemis. Donc, Artemis d'Andy Weir, W-E-I-R. Ça raconte dans un futur proche, plutôt, la Lune qui est colonisée, donc il y a quelques bulles et plusieurs milliers de personnes qui vivent sur la Lune. Et ça suit Jazz. Jazz, ça n'a rien à voir avec cette musique inécoutable. Ça a plutôt c'est plutôt le prénom d'une jeune livreuse qui fait également de la contrebande. Et elle se retrouve au milieu d'un complot qui vise à je ne sais pas quoi sur la Lune, peu importe le prétexte. Mais en tout cas, elle va essayer de sauver la Lune. Ne pas se faire virer de la Lune aussi, qui serait une grosse sanction pour elle. Tout ça avec un langage vraiment très très frais. Donc c'est une jeune qui parle super cool, qui dit plein de gros mots et qui est une héroïne assez péchue, quoi, bien, bien badass. C'est un grand plaisir, ce petit bouquin. Un peu moins rêche, un peu moins raide que Seul sur Mars. Donc il y a de la RDSF, il y a vraiment pour les gens qui s'intéressent aux sciences et tout, il y a cet aspect-là, mais c'est mis un petit peu au service de l'histoire, donc ça fait plaisir. Et le morceau qu'on a écouté juste avant pour présenter ça, c'était Solid Space, donc un groupe de 1982, un duo qui a sorti une petite cassette, et le morceau s'appelle Destination Moon, Destination la Lune. On enchaîne. We'll be right back. Ouais, désolé pour chaque fois, on coupe un petit peu parce qu'on est, un peu short. C'était le morceau Funky Cocotte pour le bouquin que va vous présenter Michel.
Ah, donc sur Jeudi Noir, Radio Libertaire 89.4, Radio sans Dieu ni maître ni publicité. Ensuite, on laisse, c'est le dernier livre, après on laisse l'antenne donc, à Entre Chiens et Loups. Et ils font du bruit dans le couloir, ils sont affreux. Et donc, je voulais vous présenter un livre que j'ai un peu choisi par hasard parmi ceux qui a écrit un auteur que j'aime bien, un auteur américain qui s'appelle Charles Vilford. C'est publié chez Rivage Noir. Et le bouquin s'appelle Combat de coq. Alors, globalement, je considère que Vilford, c'est une espèce de Flaubert du XXe siècle américain. C'est-à-dire qu'il présentait essentiellement des ordures au premier degré. Comment dire ? Et donc, c'est typiquement des hommes blancs de classe moyenne qui se comportent mais comme les pires sacs à merde qu'on peut imaginer et qui sont très très contents d'eux-mêmes. Donc, c'est une lecture que je vous recommande si vous êtes un homme blanc de classe moyenne. Ça concerne une minorité de la population, mais comme elle croit qu'elle est majoritaire, c'est bien de lui en parler aussi. Et donc, le bouquin s'appelle Combat de coq. Et donc c'est un type dont le métier c'est d'entraîner des coqs à s'entretuer avec d'autres coqs pour gagner sa vie. Il torture des animaux en fait. Il est assez content de lui. Il fait son métier sans aucune sans aucune contrainte morale. Il est tranquille. Globalement, c'est pour ça que Vilford a écrit plein de bouquins dans ce genre-là. Moi, je trouve ça assez instructif. Donc, à vous de voir si ça peut vous plaire. C'est des romans noirs, souvent, plutôt que policiers ou plutôt que SF, c'est noir et c'est bien. Voilà, donc c'était Jeudi Noir pour un de ces marathons du livre. On vous met un dernier morceau de Gus of Kermer qui parle des livres et puis on se retrouvera dans quelques semaines.
Season so like leaves 153 white girls singing same old phrase. Middle of the city, 153,000 books. The ground. Season.